Merci. Merci l'équipe. Vous n'avez pas réussi ce matin à trouver un seul chant qui n'était pas en phase. C'est pas facile ce matin. C'était pas facile hier, malgré que j'avais les ingrédients depuis un bon moment. Je vous expliquerai pourquoi dans un moment. Si je donnais un titre, je mettrais celui-ci. Ce que je suis avant ce que je fais. Quel est le premier commandement? Vous le savez, hein? Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Verset 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dans Marc, chapitre 12, au verset 28, un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et Luc 12 ajoute à ce texte, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Est-ce que nous sommes concernés par ces commandements? Après tout, même quand Jésus parle, il n'a pas encore été crucifié. On est encore dans l'ancienne alliance. Et Jésus dira, verset 17 dans Matthieu, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quel était donc le deuxième commandement? Quand Jésus reprend les commandements, il met en deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que le deuxième commandement de l'Exode est implicite du premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ce qui te constitue. Et donc, implicitement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais le deuxième commandement, c'est celui-là. Si on peut appliquer pleinement ces deux premier, les autres sont inutiles. Mais on sait qu'aucun homme en dehors de Christ ne le peut. Jésus a dit, en effet, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cherchez à faire ou pas faire. Observer la loi peut devenir une idole. Quand la raison, la motivation, voire l'interprétation à notre sauce est mauvaise. C'est une idole quand la loi est plus importante que le législateur et dans l'oubli surtout de la raison du but pour laquelle il a donné la loi. C'est finalement chercher, s'élever pour mériter Dieu, c'est oublier que lui s'est abaissé au plus bas pour venir vers nous. Tu ne te feras pas d'image taillée. Qui de vous a des idoles qu'il adore ou qu'il sert ? Je reprends. Qui parmi nous a des idoles qu'il sert ? Ah, il y a eu 2-3 mains. Ok, on y reviendra. On prend dans Matthieu 5, au verset 1. « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. » Ça commence bien. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Car le royaume des cieux leur appartient. » Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais s'il perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père céleste. D'abord et surtout, ce que je suis plus que ce que je fais. Dans ce passage du début du sermon sur la montagne, les béatitudes, vous remarquez que ce que Jésus demande, que ce que Jésus présente, c'est avant tout ce qu'on a dans le cœur. C'est avant tout ce qui dispose notre cœur et notre esprit. Par la suite, dans les deux chapitres qui suivent, il va développer devant ce qu'on fait devant les hommes, il va développer ce qu'on fait dans l'Église, il va développer ce qu'on fait les uns avec les autres, il va développer ce qu'on fait dans la famille. et il va nous demander de faire des choses. Mais presque chaque fois, Jésus va dire, on vous a dit, mais moi, je vous dis. Jésus reprend ce qui de la loi, ce qui de on doit faire, était devenu quelque chose qu'on fait, peut-être par peur ou par obligation, pour pointer du doigt que ce qui importe, c'est la disposition du cœur et de l'esprit. Jésus, dans tout ce sermon, dans tout cet enseignement, tout en montrant à ses disciples ce qu'il attend d'eux, va avant tout mettre le doigt sur ce qui doit être dans leur cœur et dans leur esprit. Je ne suis pas en train de dire que Jésus a dit que ce n'était pas important ce qu'on faisait. Mais je crois qu'il a remis en cause la façon dont c'était fait et pourquoi on le faisait, en montrant bien que la disposition, encore une fois, dans laquelle on est importante. Au verset 20 du chapitre 5, il dira « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et dans la Bible, le verset qui suit, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, « Alors je leur dirai ouvertement, » c'est Jésus qui parle, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Et puis tout de suite derrière, il y a l'enseignement sur la maison sur le sable et la maison sur le roc. Les maisons semblent égales dans la description. Celle sur le sable a probablement été construite avec de bonnes intentions, mais sans être bien fondée. J'aimerais faire un parallèle avec un autre passage dans Daniel 2, au verset 31. Il s'agit du roi Nabucodonosor. « Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze. » Ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Permettez-moi d'extrapoler un peu ce texte pour le comparer à celui de la maison sur le sable. Dans ce contexte, c'est un contexte différent. Il s'agit d'une puissance et du royaume de Dieu qui va venir remplacer ces puissances. Qui se croyait supérieur à tout, qui se prenait pour des dieux. Dans la maison, elle a été ruinée. Dans la statue, les puissances qui se croyaient invincibles, justement, deviennent comme l'écorce du grain et s'envolent. Lorsque Jésus parle de la maison sur le roc et la maison sur le sable, il parle de ceux qui écoutent ces paroles et les mettent en pratique ou ne les mettent pas en pratique. Jacques, au chapitre 2, met aussi une image sur l'application, la mise en pratique de la parole. Et il dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En même temps, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, peut-être qu'on n'oublie pas, nous tous ici, ce qu'on a vu dans le miroir. J'en suis sûr. Et qu'on veut sincèrement mettre la parole en pratique. Mais j'extrapole toujours cette image de la statue avec ce pied fragile. Quand on regarde dans le miroir, la plupart du temps, on ne voit pas ses pieds. On n'a pas trop l'habitude de regarder nos pieds. Et nous, en tant que chrétiens, on chante même souvent. Et j'aime beaucoup ce chant. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux. Et on a raison de le faire. Mais souvent aussi, on le fait sans réfléchir. Où sont posés nos pieds? Et dans quel état ils sont? Je crois que Jésus nous appelle, sans le quitter des yeux, à regarder où sont nos pieds et dans quel état ce que nous sommes avant de bâtir la maison. Mais aussi pendant. Car s'il ne guérit pas lui-même la partie en argile, la maison et la statue qu'on croyait, en or finiront en poussière qui s'envole au gré du vent. Ce que nous pensons être précieux, nous verrons qu'en fait, ce n'est que l'écorce du grain qui s'envole. Et Paul parle de cette image dans Corinthiens, quand il parle des matériaux que nous allons utiliser pour construire, de l'or, de l'argent, du fer, de la paille. Et au dernier jour, au jour du retour du Christ, il dit que la paille sera brûlée. Ce que nous sommes réellement. Avant de construire, regardons à Dieu qu'il nous révèle ce que nous sommes réellement et nous aide à nous laisser transformer en ce qu'il veut que l'on soit. Une seule chose nous permet de bâtir sur le bon fondement, une vie authentique dans la présence de Dieu. Si on fait un retour sur nos idoles, il y en a qui sont facilement décelables. Et certainement, au début de notre vie chrétienne, on les a décelés et on les a écartés. Mais d'autres sont plus difficiles. Et c'est souvent le cas. Car le propre de l'idole, c'est souvent une bonne chose à la base, légitime, peut-être même essentielle, qui ont été élevées à la première place. Quasiment tout ce qui constitue nos vies et l'attachement qu'on y porte peut devenir une idole. Ça peut même être dans ce qu'on pense être notre spiritualité, notre engagement même, mais qui ont pris une place ou une représentation dans nos cœurs, qui en ont fait une religion. Voire de l'orgueil, ce qui est logique, car la religion, c'est ce que l'orgueil humain a fait du spirituel. Un dénommé William Temple a dit « Votre religion est définie par ce que vous faites dans votre solitude, de votre solitude. Vers quoi se tourne sans effort, vos pensées, lorsque rien d'autre ne requiert votre attention. Voilà le vrai Dieu de votre cœur. Une autre citation de David Polisson, que je ne connais pas par ailleurs. La question fondamentale que Dieu pose à chaque cœur. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un, à part Jésus, le Christ, règne sur votre cœur, votre confiance, vos préoccupations, votre fidélité, votre service, vos craintes et vos joies. Vers qui ou vers quoi regardez-vous pour trouver la stabilité, la sécurité et l'approbation qui vous maintient en vie? Que voulez-vous? Qu'attendez-vous vraiment de la vie? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Qu'est-ce qui ferait de vous une personne acceptable? Où cherchez-vous le pouvoir et le succès? Ces questions ou d'autres similaires nous aident à savoir si nous servons Dieu ou des idoles, si la source de notre salut est Jésus-Christ ou si nous le cherchons dans un faux sauveur. Je vous ai dit que ce n'était pas facile pour moi aujourd'hui. Vous savez ou pas, la plupart le savent, que depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai quitté mon travail parce que j'étais arrivé au bout de quelque chose et parce que depuis aussi un certain temps, beaucoup de choses me tenaillaient sur, à la limite, ce que je devais faire. Vous comprenez déjà pourquoi ça me touche. Et puis, c'était une année particulière, une année vraiment de grâce aussi, de difficile d'un certain point, mais de grâce devant Dieu par rapport au temps que j'ai pu passer avec lui. Et puis, ne voyant pas, cherchant toujours ce que je devais faire, mais ne voyant pas de piste, ben il faut que je me remette à chercher du travail. Et j'ai recommencé à chercher du travail depuis un moment déjà. Mais presque tout était négatif, ou tout était négatif. Ces dernières semaines, après avoir fait un mail de rappel, une réponse négative, on m'a convoqué à un entretien. C'était à la plateforme maraîchère de Genève. J'ai eu un entretien qui m'a fait beaucoup de bien, qui s'est très bien passé. Et puis le lendemain matin, on m'a appelé à un deuxième entretien, cette fois avec les producteurs, parce que c'est eux les patrons de la plateforme. Et ça s'est très bien passé. Pour moi, échanger avec des producteurs, ce n'était pas trop un problème. Avec le directeur, c'était déjà assez bien passé. Ça s'est très bien passé. Mais il y avait à la fois ce désir de nouveau d'avoir quelque chose, et puis à la fois cette difficulté, parce que c'est une plateforme qui travaille 6 jours sur 7. Et déjà, j'entrevoyais la même raison pour laquelle j'avais quitté le premier. Et j'ai dit à Dieu, il savait que dans mon cœur, j'avais envie d'à nouveau être valorisé, entre guillemets, aussi financièrement. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, tu ouvres la porte ou tu fermes la porte. Peut-être aussi que ça peut se passer autrement que ce que j'envisage. Dans l'entreprise, ça sera peut-être plus facile. Et puis, la réponse a tardé, elle ne venait pas. Et j'ai perdu un peu mon optimisme. Et ce vendredi, j'ai eu la réponse négative. Un très bon contact avec le sous-directeur. Très bon contact. Qui m'a dit... Ça a été difficile, il s'excusait même presque de son choix, mais il y avait quelqu'un qui connaissait les légumes. Et ça a été dur. Ça a été dur parce que depuis un an, Dieu m'a travaillé beaucoup sur ce à quoi j'étais accroché, sur où est ma confiance. Et je peux vous dire, à vous tous qui avez un salaire, un job, et ceux qui n'en ont pas et qui cherchent, ils le savent, notre confiance, elle est bien plus souvent dans notre réussite, dans notre job, dans ce qu'on a dans la vie, qu'en notre Dieu qui nous donne tout ça. Et pendant cette année, il m'a appris tout ça. Mais ce qu'il m'a appris aussi, d'un seul coup, là, petit à petit, mais d'un seul coup, là, c'est que finalement, on passe du temps à chercher ce qu'on devrait faire, ce que Dieu veut qu'on fasse. Et là, le Seigneur m'a mis un coup de griffe en profondeur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La Bible, finalement, ne nous donne pas beaucoup de réponses sur le sujet de ce qu'on doit faire. Les jeunes qui cherchent pour leur vie professionnelle, les jeunes et les moins jeunes qui cherchent un compagnon ou une compagne, la Bible ne nous dit pas ce qu'on doit faire. Moi, j'ai cherché dans toute la Bible. Et finalement, elle ne donne pas beaucoup de réponses sur ce sujet. En tout cas, en ce qui concerne nos choix. Il n'y a pas de plan clairement exprimé de ce qu'on doit faire. Il y a quelques passages clairs qui nous guident pour la vie chrétienne, ça oui. Et aussi sur ce qu'on ne doit pas faire. Mais en fait, je crois qu'il y a surtout dans la Bible des explications claires sur ce qu'on devrait être et sur ce que Dieu veut qu'on soit. Par-dessus tout, ce qu'il veut pour nous. Et elle nous dit aussi pourquoi. Elle nous dit aussi surtout que Jésus, par l'Esprit Saint, veut faire tout cela. D'abord, être pour nous tout ce qu'il a prévu depuis toujours, c'est-à-dire tout, car il nous a rachetés et nous lui appartenons. Et ensuite, nous transformer en ce qu'il attend, en disciples. Et ce pourquoi il nous a créés dès l'origine, pour glorifier le Père. Et partant de là, ce qu'on fera, ce n'est pas que ça en deviendra secondaire, mais induit par l'identité en lui, la nouvelle. Et en fait, entre guillemets, je dis bien, peu importe ce que l'on fait, si c'est fort de cette identité, c'est forcément obéissance à sa volonté. Dieu nous a donné des crayons de plusieurs couleurs. Et peu importe laquelle on prend, si c'est pour colorier son royaume. J'ai lu quelque part l'exemple, le même exemple avec un enfant. Quand un père ou une mère donne le temps, la latitude, l'autorisation à son enfant pour aller jouer dans tout ce qu'il a à disposition. Ça peut être dehors, ça peut être dans sa chambre, ça peut être avec un ballon, ça peut être avec un jeu, ça peut être avec plusieurs choses. Peu importe ce qu'il va faire. Si c'est dans la latitude que vous lui avez donnée. N'oublions pas, on pense souvent avoir écarté nos idoles et être en relation profonde avec Dieu. Et on doit admettre en fait qu'on passe toute notre vie à croire que nous sommes arrivés au fond de notre cœur pour découvrir qu'on n'y est pas encore. C'est le pied d'argile, c'est notre talon d'Achille, Alors comment faire ? Faire place nette. Mais la nature a horreur du vide. Si vous arrachez l'idole, sans planter Christ à la place, l'idole repoussera. Jésus parle en parabole d'une maison qu'on a nettoyée d'un mauvais esprit et que sept plus puissants reviennent. Il avait fait place nette. Donner la place à Jésus, être marqué par une vie authentique dans la présence de Dieu. Mais allons-nous devenir parfaits maintenant dans cette vie ? Non. La semaine d'avant, on partageait en cellule nos difficultés justement de débattre, de dualité dans la vie, de cette graine qui pousse. Et puis, c'est Pierre qui avait parlé de cette ivraie aussi qui a été semée, comme Jésus l'a dit. Et puis il a dit, on ne peut pas l'arracher, on va arracher la bonne plante. Et donc, elles sont les deux là. Et puis, oui, on a cette difficulté toute notre vie. Mais ce qui était sorti de cette discussion, c'est que si on nourrit la bonne plante, parce que la mauvaise, on a convenu de ça aussi, il n'y a pas besoin de la nourrir, elle se nourrit toute seule. Mais si on nourrit la bonne plante, elle va pousser et elle va prendre la place. Et on n'aura même pas besoin de se préoccuper des mauvaises. La bonne va prendre la place. Moi, j'ai transposé cette image. Je pense que nos dames qui ont déjà été concernées le comprendront mieux, mais on peut très bien le comprendre aussi. C'est celle d'un fœtus, d'une graine qui a été plantée et d'une vie qui se développe et qui prend petit à petit, qui grandit et qui prend sa place. N'enlève pas ce qui est autour, mais prend sa place. Elle repousse le reste. Et toute l'attention, je pense, mesdames, que c'est le cas, toute l'attention du corps qui porte cette vie se reporte sur cette vie qui est en train de grandir en elle. Croire, c'est plus qu'accepter intellectuellement que Jésus est mort pour nous. Croire, c'est par la foi faire confiance à Jésus. C'est le sens du mot foi. Faire confiance, c'est le suivre, disciple. Disciple, c'est être comme lui et ce qu'il a enseigné. Et être comme lui, c'est faire la volonté du Père. Car ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Jean 15, 8. Et ça, c'est l'œuvre de sanctification. On en a beaucoup parlé ces temps. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, il radote encore. C'est l'œuvre de sanctification, celle de toute notre vie chrétienne. C'est l'œuvre de Christ, pas la nôtre. Je vous livre l'explication du coup de griffe. C'est une image de C.S. Lewis. C'est l'histoire d'un jeune garçon méchant, tyrannique avec les autres, qui veut toujours être au-dessus, qui veut toujours être le premier, et qui, un jour, dans une grotte, trouve un trésor. Et il se met à rêver sur ce trésor, de tout ce qu'il va pouvoir faire, de la puissance qu'il va avoir. Et puis quand il se réveille, il a été transformé en dragon. Et en étant ce dragon, il est puissant. Mais il est seul. Et plus le temps passe, plus il a envie de redevenir un petit enfant. Et c'est là que l'histoire que je voulais vous raconter vient. Une nuit, Eustache, le dragon, rencontre un lion mystérieux. Le lion lui lance un défi. Il lui demande de se déshabiller, d'essayer d'enlever sa peau de dragon. Eustache arrive à enlever une couche, mais il découvre qu'en dessous, il est toujours un dragon. Il essaye plusieurs fois, sans résultat. Enfin, le lion lui dit « Il va falloir que tu me laisses te déshabiller. J'avais peur de ses griffes, je veux l'avouer, mais j'étais presque complètement désespéré à ce moment-là. Alors je me suis simplement couché à plat sur le dos pour le laisser faire. La toute première griffure qu'il m'a faite était si profonde que j'ai eu l'impression qu'il avait atteint mon cœur. Et quand il a commencé à retirer la peau, ça faisait plus mal que tout ce que j'ai jamais pu ressentir. Il a finalement pelé ce damné truc complètement. Juste comme je croyais l'avoir fait moi-même, sauf que ça ne m'avait pas fait mal. Et c'était là, par terre, dans l'herbe, seulement tellement plus épais, plus sombre, et l'air plus noueux que les autres que j'avais enlevés moi. Et j'étais là, lisse et doux, comme une baguette écorcée, plus et plus petit qu'avant, j'étais redevenu un garçon. J'ai bien aimé cette histoire. A priori, il faut juste se mettre sur le dos. Vous remarquerez, quand on est sur le dos, on a les yeux tournés vers le ciel. Mais par ce juste s'entend bien sûr la rencontre avec le lion Aslan. Ceux qui connaissent Narnia connaissent ce lion dans le conte. Et la rencontre et la relation avec le lion de Juda, Jésus-Christ, dans notre histoire. En conclusion, gardez les yeux sur Jésus. Ça semble tellement simple. Mais je pense, en tout cas c'est ma perception, que c'est sûrement plus dur de persévérer dans ce sens que d'essayer de se débarrasser nous-mêmes de notre mauvaise peau. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce que nous faisons la plupart du temps. J'avais mis un passage de 1 Jean 4, vous le lirez pour vous à la maison, du verset 9 au verset 19. Je lis juste le verset 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Aimer Dieu, aimer sa sainteté, sa justice, son amour insondable, le louer, l'adorer, pas par peur ou pour obtenir quelque chose, mais pour lui, parce qu'il est tout pour nous. Et dans cette relation, notre amour pour la sainteté en nous augmentera toujours plus. Et par opposition, parce qu'incompatible, la haine de nos idoles, du péché, augmentera jusqu'à en détester la pensée, sans lutte de notre propre volonté, car c'est l'Éternel qui combattra pour nous. Mais il nous faut une discipline pour que nos pensées, paroles, actes, cœur, âme, force soient tournées vers le Seigneur notre Dieu de plus en plus. Et c'est la persévérance quotidienne de notre relation avec le Père en Jésus, par tout ce que l'Esprit nous donne, lecture de la parole, prière, écoute, qui nous rendra pleinement dépendants de lui. Et pas nos luttes inutiles, épuisantes, angoissantes, pour faire bien ou pas faire mal, par nos propres forces. Amen. En pensant à la scène, il me semble que la réussite de cette discipline personnelle dont je viens de parler s'enracine dans la communauté. La vie ensemble, l'adoration, la louange, rendre gloire. En fait, l'idolâtrie toute résumée, c'est de ne pas rendre gloire à Dieu. Et tous ces moments ensemble sont la base, le socle de cette vie tournée vers Dieu. Et la communion, la vraie communion, en est le centre vital. Le culte, c'est tout ça, et seulement ça, la gloire à rendre à celui à qui elle est due. Oui, Seigneur, vers toi nous voulons lever les yeux. Seigneur, ce matin nous avons chanté aussi « Je désire t'honorer ». Et Seigneur, mon désir que tu rends toujours plus présent dans ma vie, que tu aides à atteindre, que tu transformes, c'est que ton nom soit sanctifié dans ma vie. C'est que ton nom soit sanctifié dans ma famille. C'est que ton nom soit sanctifié dans mon Église. Et Seigneur, ensemble, nous voulons te prier pour que tu poursuives cette œuvre que tu as commencée en chacun d'entre nous, Seigneur. Que tu nous rendes disponibles, Seigneur, à te laisser agir en nous. Que tu nous aides à abandonner nos luttes inutiles avec nos forces, Seigneur. Et que tu viennes toi-même, même avec tes griffes, Seigneur, œuvrer pour nous dégager de cette pelure qui nous souille et qui nous empêche de te recevoir. Mais Seigneur, on sait qu'on doit vivre avec cette confiance en toi jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Et Seigneur, on te prie que tu nous aides à surmonter nos difficultés, à garder les regards tournés vers toi quand c'est vraiment trop dur, Seigneur. Seigneur, à apprendre que dans les difficultés, tu veux nous porter aussi à mettre notre confiance en toi, à garder ses yeux vers toi, que tu veux venir guérir nos pieds fragiles. Seigneur, aide-nous à regarder à toi toujours, en toutes circonstances, en chaque instant, en chaque moment, quelles que soient nos activités, Seigneur, que nos pensées, nos paroles et nos actes soit empreinte de ton esprit et de ta pensée. Par ton nom. Amen. On veut passer aux annonces. Donc voilà pour les activités de la semaine. La réunion de prière, mardi, je rappelle. On passe des temps bénis ensemble, les yeux plongés dans la parole, mais aussi les cœurs plongés dans la relation avec Dieu, dans l'écoute, dans le partage et dans l'intercession. Vendredi prochain et samedi prochain, 25 et 26, vous savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez demander si vous n'êtes pas informé, il y a la banque alimentaire qui va se passer dans les supermarchés du pays de Gex. Et Jean-Paul m'a rappelé qu'il manque encore des bénévoles, particulièrement à Sony et Ferney. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, soit sur le Doodle qui a été mis sur le site, mais il dit que c'est même presque plus pratique si vous voulez carrément lui faire un mail ou lui téléphoner pour organiser ça avec lui. Vous avez les deux possibilités, mais il y a encore besoin de personnes pour, en tout cas, ces deux sites. Je rappelle à l'avance déjà aussi que le mardi 29, donc pas celui qui arrive, mais celui de la semaine suivante, nous aurons une réunion d'église. Vous avez vu, on ne l'appelle plus réunion de membres, on l'appelle réunion d'église. On s'est ouvert. Non, on a toujours été ouvert, mais des fois les mots sont plus parlants. C'est une réunion d'église pour un partage, une discussion sur l'avancement de la réflexion pastorale. Je rappelle aussi que l'étude biblique du premier mardi du mois prochain, du mois de décembre, sera sur 1 Corinthiens 5, 6. On fera le lien avec le chapitre 4. Donc, dimanche prochain, Philippe qui apportera le message, comme on l'a prévu, parlera déjà de ce sujet. Donc, vous êtes invités à plonger déjà vos regards dans ces chapitres de cet épître. Le dimanche 4, aussi une journée importante, ce sera le culte pour l'Église persécutée et Eric Baumann sera parmi nous. Il est aussi prévu que ce dimanche-là, la collecte est donnée à l'œuvre Portes Ouvertes et donc sera remise à Eric Baumann. Donc vous pouvez aussi vous préparer, comme Frédéric Travier nous l'avait dit, hein, aussi à se préparer. On ne sait pas s'il sera bon ou pas bon, mais on se prépare à ce que Dieu nous a mis sur le cœur pour donner. Donc préparez-vous à cette offrande. Voilà, on rappelle aussi les 2 et 3 décembre, le marché de Noël, et puis notre fête de Noël le 10 décembre, on veut tous penser à ça.
Pour la fête de Noël, on a mis des...
Voilà, j'allais donner la parole à Nancy.
Ah,
c'est encore autre chose. Alors vas-y, Pierrick.
Vas-y, le temps que tu viens, je le dis. On a mis à la disposition des affiches A3, on n'a que 20, donc peut-être c'est juste pour les commerces de la ville ou si quelques-uns veulent s'en occuper. Elles sont posées sur la bibliothèque, les petits flyers à distribuer pour les personnes que vous souhaitez inviter, on ne les a pas encore, ils arriveront dans la semaine.
D'accord.
Donc voilà, les affiches sont sous la bibliothèque.
Juste pour cette fête, souvent on a besoin d'aide, donc on aura besoin de votre aide pour, après le spectacle, il y a une partie buffet un peu comme d'habitude, on aura besoin d'aide pour vous, pour la partie dessert. On a mis un tableau au fond pour vous inscrire, juste petite précision, c'est noté mais je le redis bien, on a besoin de desserts qui se mangent sans assiette, donc des gâteaux, des tartes, des choses pratiques à manger mais sans assiette. Et puis j'ai mis une deuxième partie sur le tableau où on aurait besoin aussi un peu de panier en osier pour la présentation du pain, des mandarines. Donc si quelqu'un en a à prêter, mettez votre nom, que je sache à peu près combien on en a pour la présentation. Puis bien sûr, après, il y aura des infos pour la mise en place avec les horaires. On a toujours besoin le matin, et puis, mais ça sera reprécisé avec les horaires.
Merci. Continuons de penser à nos personnes, nos frères et sœurs qui souffrent. On n'a pas particulièrement de nouvelles récentes. J'ai vu que Guylaine était parmi nous, je ne la vois plus, mais on veut continuer de penser à elle. Annelise, on n'a pas de nouvelles fraîches, mais elle est toujours à Beau Séjour. Philippe m'a dit que Roland arrivait au bout de sa rééducation et que, par la grâce de Dieu et par la gentillesse de ses supérieurs, il va pouvoir reprendre tranquillement le travail avec un aménagement en conséquence. Donc je pense qu'on veut être reconnaissant pour la main de Dieu sur tout ça, mais aussi continuer de penser à Roland dans ces temps difficiles. Pour Brian, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone ces jours. Ils vont, en principe, excusez-moi de mon soupir, mais ils vont, je devrais être heureux et je le suis de les revoir, mais ils vont revenir à la fin de cette semaine, le 25, dans leur appartement à Thoiry. Mais Brian est en tout cas pas mieux qu'avant. Donc voilà, j'ai des échanges avec lui, c'est souvent à sens unique, donc je pense avant la fin de la journée lui écrire un mail, mais dans l'amour comme on peut le faire entre nous, et on veut penser en tout cas à ça, parce que on prie pour que Brian, oui, on croit au miracle, et on prie pour que Dieu vienne rétablir cette paralysie dans sa jambe. Et on veut continuer de remettre cette situation à Dieu en tout cas. Et on veut en tout cas penser particulièrement à Brian et Hélène et dans ce qui se profile maintenant et dans la situation et les solutions que Dieu mettra en place pour les accompagner. Une toute petite info, moi j'ai eu ces enfants au téléphone et ils ont cherché plein de solutions. Donc pas qu'on pense que les enfants ne prennent pas en compte, ils ont cherché plein de solutions, mais ils n'arrivent pas avoir gain de cause, donc ils ont dit ben ça sera devant le fait accompli. Donc voilà, je dis pas ça pour de mauvaises choses, mais qu'on veut vraiment penser aussi à cette situation. Voilà, est-ce que j'ai omis quelque chose à partager? Oui, voilà, j'y venais en préparant mon verset. Donc le dépôt de Noël est là, il y avait des commandes, mais je crois que Pascal m'a dit que la plupart les ont récupérées. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez y aller, et puis aller faire un tour, il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis, pour ceux que j'ai eu par mail, peut-être que j'en rate, j'avais passé une petite information par rapport à ce livret évangile.net, l'évangile.net. Pour faire court, c'est l'évangile de Jean, mais un petit peu moderne, avec à l'intérieur du livret des petites explications, une possibilité de noter des questions, des choses qui poussent à la réflexion, des petites questions posées, et puis une vingtaine, je crois, de vidéos explicatives, c'est-à-dire qu'on lit un passage et il y a une vidéo explicative qui vient expliquer ça, soit avec un flashcode, hein, pour ceux qui sont branchés, ils savent, on flash et puis ça nous emmène direct, soit avec la référence du lien qui est affiché à l'intérieur. Et pour quelqu'un que vous connaissez qui veut découvrir l'évangile, j'ai trouvé très intéressant, parce que ce n'est pas simplement donner la parole, mais il y a des petites explications. Alors on peut aussi avoir cette application directement informatiquement, c'est-à-dire qu'on a tout, l'évangile.net, c'est gratuit, c'est sur le net. Hein. C'est bien, je trouve que ça c'est sympa parce que c'est quelque chose qu'on peut donner. C'est à disposition au fond, j'en ai commandé moi-même une cinquantaine parce que ça vient de sortir et c'était déjà quasiment en rupture. Ça coûte normalement 4,90 €, en les achetant par 10 ça revient à 3 € et des poussières, et donc il y en a une cinquantaine. Si, ne les prenez pas pour faire de la décoration, mais si vous avez de quoi, des personnes à qui vous pensez pouvoir les donner, et aussi pendant, on aura la fête de Noël et d'autres occasions, prenez-en. Si vous voulez, vous donnez 3 € à la librairie, et puis ceux qui ne peuvent pas, ou les plus jeunes, ou ceux qui voudraient le donner, vous pouvez y aller, c'est fait pour ça. Voilà. Je m'arrête là, je vous invite à vous lever. comme ce matin c'était difficile, je vous livre mon verset favori, Hébreux 13, 20. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.